avez peut-être entendu dans la torpeur estivale parler de cette galaxie SPT-04-1847, une galaxie qualifiée de sœur jumelle de la Voie lactée, découverte très loin dans l'espace-temps, à 12,4 milliards d'années-lumière, soit à peine plus d'un milliard d'années après le Big Bang. C'est très 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 loin, il y a très très longtemps, quand l'univers était encore très très jeune. Comme souvent, la communication scientifique a été un peu enjolivée, et s'il est maladroit, voire inexact, de parler de sœur jumelle de la Voie lactée, il n'empêche que cette galaxie en présente certaines caractéristiques, ce qui est assez déroutant vu son jeune âge et notre connaissance de l'univers à cette époque reculée. Univers jeune, si loin, si proche, c'est le programme Galactique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce que l'observation de cette galaxie lointaine vient modifier dans notre compréhension de l'univers jeune et de ce que l'on sait à l'heure actuelle de ces premiers âges de notre univers, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hervé Dolle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Paris-Saclay, astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, et nous sommes en ligne avec François Hammer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, responsable de l'instrument multi-objet sur le futur Extremely Large Télescope, dont il sera question également au cours de cette émission. Mais pour commencer, on reste dans le temps présent de l'actualité scientifique pour le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha.
Bonjour Nicolas.
Et on commence par cette étude dont vous avez certainement entendu parler si vous vous intéressez un peu aux sciences, qui fait beaucoup beaucoup de bruit depuis hier soir dans Nature Astronomy, une étude qui parle de la détection de phosphine dans l'atmosphère de Vénus et donc peut-être de vie à la surface de cette planète.
Oui, une équipe britannique a observé Vénus avec deux des plus grands radiotélescopes et ils ont détecté une grande quantité de phosphine. C'est une molécule assez simple que l'on retrouve sur Terre parce qu'elle est produite par certaines bactéries. On ne s'attendait pas à en trouver sur Vénus. Déjà, elle devrait être détruite très vite et il n'y a rien qui explique la production de cette phosphine. Alors cela fait des nombreuses années que l'on dit qu'il pourrait y avoir une forme de vie sur Vénus. Alors non pas à la surface, il y fait 470 degrés, mais dans les nuages, vers 50-60 km d'altitude. La pression est à peu près comme sur Terre et les températures sont entre 0 et 50 degrés Celsius. Ce n'est donc pas impossible que certaines bactéries résistantes à l'acidité puissent vivre là. Mais de là à dire qu'il s'agit d'une trace de vie, François Forget est planétologue et directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace à Paris.
Effectivement, c'est surprenant de trouver la phosphine, mais c'est peut-être pas quand même une raison pour dire qu'il y a de la vie. Et les chercheurs le disent pas. Cependant, ils mènent une enquête assez poussée, qui reste théorique, pour essayer d'imaginer comment il pourrait y avoir des sources de phosphine. Par exemple, est-ce que l'arrivée de micrométéorites, voire de météorites, pourrait faire avoir cet effet-là? Est-ce que ça pourrait être produit par du volcanisme à la surface, si ça remonterait au niveau des nuages, etc., etc. Et ils démontrent de manière assez convaincante que ça marche pas bien, quoi. Donc, malgré tout, c'est que le début de cette enquête-là. Pour l'instant, les chercheurs sérieux ne sautent pas sur leur chaise, on a trouvé de la vie sur Vénus. Il reste à prouver et à confirmer l'observation. L'observation est bien faite, ils ont utilisé deux instruments, néanmoins ils n'utilisent qu'une seule raie, hein. Donc ça pourrait être une illusion, un artefact, puis on est un peu à la limite du bruit de ces instruments, donc c'est quand même une observation difficile qui restera donc à confirmer. Puis d'autre part, évidemment, il faudra aussi démontrer qu'on ne peut pas expliquer la présence de phosphine par des phénomènes chimiques tout à fait, disons, naturels, en tout cas minéraux, et non pas liés à une forme de vie.
Oui, parce que parler de biosignature immédiatement, c'est un peu survendu.
Oui, c'est survendu, et puis évidemment les médias et encore plus les réseaux sociaux s'excitent là-dessus. Mais c'est vrai que l'idée qu'il y a de la vie dans ces nuages est une idée présente et assez ancienne. Alors c'est sûr que quand on trouve un indice d'un gaz tout à fait étonnant qui normalement est produit par la biologie, c'est assez tentant de dire « Ah, on a peut-être trouvé un indice qui irait dans ce sens-là ». Mais évidemment, comme disait notre gourou en planétologie, Carl Sagan, il disait que toute annonce extraordinaire réclame des preuves extraordinaires. Et donc, évidemment, l'annonce de vie réclame des preuves tout à fait extraordinaires et on n'en est pas là du tout.
Pour ce qui est de la confirmation de ces observations, des missions vers Vénus sont prévues dans les années à venir, et notamment avec une mission indienne et de la spectroscopie très précise depuis l'orbite.
Voilà, et puis si vous voulez vous faire votre propre opinion, on vous a mis le lien vers l'étude originale garantie sans titre un peu trop vendeur sur la vie sur Vénus. C'est à lire sur notre fil Twitter @laméthodefc. Vous pouvez retrouver également sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Emerging Microbes and Infections, des chats ont développé des anticorps au SARS-CoV-2.
De janvier à mars dernier, des chercheurs de Wuhan en Chine ont analysé les prélèvements nasaux et sanguins d'une centaine de chats, mais aussi d'une trentaine de félins avant l'épidémie. Sur 102 chats, 15 présentaient des anticorps, et parmi ceux-là, 11 avaient des anticorps neutralisants. Cette enquête montre que les chats ont bien été infectés par le virus pendant l'épidémie. Cela suggère aussi qu'il y aurait peut-être plus de chats positifs au Covid-19 qu'on ne le pense. De plus, les chats qui avaient les taux d'anticorps les plus élevés appartenaient tous à des patients testés positifs. Néanmoins, on ne sait rien d'un éventuel processus de transmission du virus du chat à l'humain. Nous n'en avons pour le moment aucune preuve.
Selon plusieurs études parues dans le Journal of Geophysical Research, Planets, l'astéroïde Bennu réagit comme une comète.
Et depuis 2017, la sonde de la NASA OSIRIS-REx observe de très près cet astéroïde avant d'en collecter des échantillons ce mois d'octobre et de les ramener sur Terre. Bennu fait 500 mètres de diamètre et il est plus actif qu'on le pensait. Il est aussi actif qu'une comète. À cause des changements de température, il éjecte de la matière et des particules. Selon les scientifiques, des gravillons s'échappent dans l'espace, d'autres orbitent autour de l'astéroïde et la plupart retombent sur sa surface.
Et enfin, la météo du Colorado a établi de nouveaux records de température en moins de 48 heures.
Et si certains états sont frappés par de méga incendies, d'autres subissent un passage brutal de l'été à l'hiver. Après avoir souffert d'une canicule, les habitants de l'état du Colorado se sont réveillés avec de la neige. L'état a enregistré des températures allant de 37 degrés à moins 0, moins 1, en l'espace de 48 heures, un record de chaleur et un record de neige pour le mois de septembre. Les climatologues donnent l'alerte, ce climat en montagne russe aura des conséquences sur la faune et la flore.
Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. C'est donc au mois d'août qu'est tombée la nouvelle SPT-04-18-47, décrite dans la presse comme une sœur jumelle de la Voie lactée, observée directement à plus de 12 milliards d'années-lumière, soit seulement 1,4 milliard d'années après le Big Bang. Loin d'être, à proprement parler, donc une sœur jumelle, c'est un peu comme pour Vénus, ça a été là aussi un peu gonflé de notre galaxie. SPT-04-18-47, dans les à moins une galaxie déroutante, tant elle partage des traits avec la Voie lactée qui, elle, n'a que 9 milliards d'années. Or, à cette époque, dans l'univers jeune, jusqu'à présent, on n'imaginait pas que les galaxies puissent avoir déjà ce type de caractéristiques, à savoir en l'occurrence un disque en rotation et un bulbe, ce qui est ce centre galactique caractérisé par une forte densité d'étoiles. Et pourtant, si on remonte dans le temps, pas le temps cosmologique, mais le temps humain cette fois, notre connaissance des galaxies et de leur distribution, de leur formation et de leur évolution est elle aussi assez jeune. Écoutez plutôt cette archive de 1957. Ce sont les grandes découvertes scientifiques du XXe siècle avec Evry Schatzman, qui est professeur à la faculté de sciences. Pour mémoire, 1957, c'est également la date de mise en orbite du premier satellite humain Spoutnik.
Dans le domaine des galaxies, on est beaucoup moins avancé que cela. On ne sait pas du tout si les galaxies sont jeunes ou si elles sont vieilles. On présume actuellement seulement qu'il y a des galaxies qui sont plus jeunes que d'autres. Mais pour donner une idée du genre d'argument que l'on peut employer dans ce domaine, je voudrais rappeler une idée très récente, puisqu'elle date de l'année dernière, qui a été apportée, concernant l'évolution des systèmes de galaxies. On trouve en effet dans l'espace des galaxies qui sont groupées par paires, par triplets, etc. Et quand on examine quelles sont les vitesses des galaxies dans ces groupements, on est amené à cette idée assez étonnante qu'il s'agirait de systèmes en train de se dissocier. Et alors, connaissant la vitesse des galaxies dans ces systèmes et leur distance mutuelle, on peut estimer le temps nécessaire à cette dissociation et on trouve un âge de 500 à 1 milliard d'années. Et alors, on arrive donc à cette idée tout à fait nouvelle que peut-être bien que dans le domaine des galaxies aussi, il y a des galaxies nouvelles qui ont été formées à une date relativement récente.
Voilà, 1957, c'était hier, et pourtant, notre connaissance des galaxies, Hervé Dolle, a considérablement évolué.
Ça a considérablement évolué. Alors, c'est très émouvant d'écouter Evry Schatzman, parce que voilà, je l'ai connu, et puis il nous a quittés il y a quelques années. Oui, et puis il y a aussi ce problème de matière noire, parce qu'en fait, Evry parle de la vitesse des galaxies, mais effectivement, il n'y a que 10% de la matière qui est visible. En tout cas, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, avec tout un tas de mesures. Et donc, tout ça est compatible avec la présence de cette matière noire invisible, mais qui, en fait, qui tient dynamiquement les amas de galaxies, puis les galaxies elles-mêmes. Oui, de nombreux progrès, mais de nombreuses questions aussi, on va en parler.
François Meur, une réaction à cette archive.
Oui, effectivement, j'ai beaucoup connu Evry Schatzman, et c'est toujours émouvant de l'entendre à la radio. Je dirais déjà que les descriptions que faisait Evry sont déjà intéressantes en elles-mêmes, y compris aujourd'hui, de montrer à quel point les galaxies peuvent être différentes les unes des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît très très bien dans notre univers local. Et je pense qu'en discutant de cette galaxie, on va pas mal parler de cet aspect-là. À quel point, par exemple, l'objet en question qui a été découvert, qui est un objet vraiment fascinant, peut être différent des autres, et à quel point la découverte elle-même peut montrer que effectivement, on a peut-être trouvé quelque chose d'exceptionnel grâce à des mesures exceptionnelles.
Alors justement, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, cette galaxie SPT 041847, François Hammer?
Alors la première chose, c'est vrai que c'est une des premières fois qu'on découvre, c'est pas la première fois, on a déjà découvert des galaxies qui sont en rotation à ces décalages spectraux, à ces distances, effectivement, y compris cette année d'ailleurs, il y a une découverte au mois de mai qui a été publiée dans la revue Nature aussi, qui montre un disque en rotation. Alors le côté exceptionnel, c'est qu'on s'attend plutôt à ces époques-là à des systèmes plutôt chaotiques plutôt que des systèmes stables et en rotation. Ce qui est exceptionnel dans cette galaxie, c'est que elle a une rotation qui est clairement ce qu'on appelle froide. C'est-à-dire que le mouvement de rotation, vous voyez le mouvement de rotation d'une étoile autour du centre de la galaxie, c'est le mouvement du Soleil autour du centre de la Voie lactée, en fait. Et ce mouvement-là domine très largement tous les autres mouvements. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans notre Voie lactée. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Beaucoup de grands disques sont comme ça, pas tous. À l'époque, on s'attendait à des choses beaucoup plus perturbées, donc on s'attendait pas à trouver ce disque froid.
Hervé Dolle, pourquoi tant d'émotion? Elle est légitime, cette émotion, autour de cette publication du mois d'août?
Alors, oui et non, comme souvent. En fait, elle a été découverte de manière tout à fait standard, quoique ça ne retire rien au mérite de ceux qui l'ont découverte. Elle a été découverte dans les ondes millimétriques par le SPT, donc South Pole Telescope, qui a pour principal objectif de mesurer les fluctuations du fond cosmologique et sa polarisation, et puis les amas de galaxies, etc. Et on a fait pareil avec Planck, mais de manière un peu différente. Et donc, vous avez des points dans ce fond cosmologique qui sont tantôt brillants, tantôt sombres, selon la fréquence où vous êtes. Et donc, ils ont découvert cette source qui, comme une grande partie de ces sources, enfin, source galaxie, donc, enfin, quand je dis source, c'est qu'on sait pas encore ce que c'est.
Bien sûr.
Qui est en fait une galaxie, donc, lointaine, hein, Redshift 4.2, si je me souviens bien, qui, en fait, qui brille beaucoup plus par effet d'amplification de lentilles gravitationnelles, parce qu'il y a une masse qui est devant. Et donc, le flux lumineux est enhancé, enfin, il est
grandi.
Augmenté, merci. Et donc, le problème, c'est quand on voit des données, alors, SPT ou Planck ou d'autres, on voit donc un point brillant, on sait pas ce que c'est. Alors, le tour de force, je pense, de cette analyse, c'est qu'ils ont utilisé ALMA, donc ce grand interféromètre, et ils sont allés voir très précisément, pour montrer d'abord que c'est une galaxie qui était très lointaine et lentillée, enfin amplifiée par effet de lentille gravitationnelle, parce que parfois ça peut être des amas de galaxies ou autre chose. Et puis ils ont réussi donc à reconstruire, parce que l'image, vous avez vu, c'est un anneau.
Enfin, on va en parler.
Ils ont réussi à reconstruire, parce que voilà, c'est un peu compliqué, il y a un modèle de masse, etc. Et ils ont réussi à voir effectivement ce dont François parlait et dont il est plus spécialiste que moi. Si par contre on s'en tient aux observations juste millimétriques, donc de SPT et puis de ALMA, sans aller dans la dynamique. C'est une galaxie tout à fait standard en termes de formation d'étoiles. Alors, elle forme énormément d'étoiles, beaucoup plus que la Voie lactée aujourd'hui. Elle est très massive. Donc, elle est, disons, normale, quoique exceptionnelle par rapport à l'univers local, mais normale pour être une galaxie très très lointaine. Là où les surprises arrivent, c'est ce dont François vient de parler.
Alors, il y a beaucoup de concepts là qui sont passés rapidement. Le Redshift 4.2, la lentille gravitationnelle, on va évidemment redéfinir un peu tout cela. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a dit, donc en tout cas, on a lu dans la presse que c'était donc une sœur jumelle. On va voir que c'est évidemment pas tout à fait exact, de la Voie lactée, mais que aussi on voyait très très loin dans l'univers jeune. Or, on a déjà observé, Hervé Dolle, des galaxies plus loin que ça.
Ah oui, on en observe des kilos, des brouettes, enfin je sais pas comment il faut dire, mais on en observe plein. La question, c'est comment on les détecte? Alors là, avec SPT, c'était détecté dans le millimétrique, donc c'est très sensible au fait d'être des galaxies actives, c'est-à-dire qui forment beaucoup d'étoiles. Parce que quand vous êtes dans le millimétrique, c'est plutôt ça que vous sélectionnez. Si vous utilisez d'autres télescopes au sol ou comme Hubble, dont on entend beaucoup parler, là, vous sélectionnerez plutôt donc des galaxies encore plus lointaines. Hein. Mais vous verrez surtout les étoiles, parce que vous êtes dans le domaine visible. Alors avec le décalage vers le rouge, vous observerez un petit peu dans l'ultraviolet de la galaxie, mais en gros, ça sera les étoiles que vous verrez. Donc, selon le télescope ou la fréquence que vous utilisez, vous verrez pas la même chose dans les galaxies. Vous serez plus sensible, donc, avec SPT, à une grosse formation d'étoiles, ou au contraire, à des galaxies massives, ou, voilà, qui est très péchu, dans l'ultraviolet avec Hubble. Donc, ce sont ces premières observations qui vous disent, en gros, un peu quel type de galaxie vous allez avoir. Et puis ensuite, les observations complémentaires vous disent bingo ou pas. Alors là, apparemment, c'est bingo, parce que, effectivement, elle est très, elle mixe des paramètres physiques auxquels on s'attendait pas.
Et c'est de ça dont nous allons parler tout au long de cette heure.
France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin.
Nous parlons donc de cette publication du mois d'août dans la revue Nature à propos de cette galaxie si particulière, SPT 04-18-47, qui donc s'est formée il y a 1,4 milliard d'années après le Big Bang et qui présente des caractéristiques singulières. Nous en parlons avec Hervé Dole et François Hammer. Peut-être qu'on peut revenir justement un peu sur ce qui amène à cette publication du mois d'août, François Hammer, parce qu'effectivement la première observation, c'est pas ALMA, c'est SPT, c'est le South Pole Telescope. Et c'était dès 2011.
Oui, tout à fait. C'est une galaxie qui a été effectivement étudiée auparavant. Mais vraiment, la révolution sur la connaissance de cette galaxie, c'est vraiment ALMA. Alors, c'est vraiment ALMA. C'est la combinaison, en fait, d'ALMA avec ce qu'on appelle le télescope gravitationnel, qui est d'utiliser effectivement l'amplification gravitationnelle. Alors, je vais peut-être faire un très bref rappel de ce qu'est l'amplification
gravitationnelle. Absolument, je vous en prie.
C'est directement lié à la relativité générale, c'est juste le fait que non seulement la gravitation affecte la trajectoire de la matière, mais elle affecte aussi la trajectoire de la lumière. Et il se trouve, quand un objet se trouve affecté par ces effets de gravitation, la lumière de l'objet, en fait, lorsqu'elle est parfaitement alignée avec un autre objet, ce qui est le cas présent, en fait, vous allez former ce qu'on appelle un anneau, c'est-à-dire il va y avoir une symétrie parfaite entre toutes les images de cet objet dû au télescope gravitationnel. Donc, ce qu'on observe, en fait, c'est un anneau, c'est un magnifique anneau, et les méthodes utilisées sont des méthodes de reconstruction, en fait, de la source. Et c'est grâce à cela, c'est assez extraordinaire, parce qu'on réussit, dans une direction donnée, à avoir des résolutions spatiales qui sont totalement inégalées. C'est aujourd'hui le seul moyen d'étudier l'univers lointain avec les télescopes actuels. C'est vraiment le seul moyen, et c'est grâce à ça, en fait, qu'on a pu avoir des visions assez sporadiques, je dirais, de l'univers lointain.
Justement, Hervé Dole, alors c'est vrai qu'on voit cet anneau, mais finalement quand le South Pole Telescope aperçoit pour la première fois cette galaxie, c'est juste un point. Pourquoi est-ce qu'on a décidé finalement d'aller chercher ce point-là? Pourquoi est-ce qu'on a mis ALMA sur le coup en quelque sorte?
Tout à fait. Alors déjà, le South Pole Telescope est un formidable télescope d'une dizaine de mètres de diamètre, mais comme il observe à des longueurs d'onde très très rouges, de l'ordre du millimètre, en fait la résolution angulaire est très mauvaise par rapport aux images dont on a l'habitude, voilà, Hubble, VLT, etc., les télescopes au sol. Donc en fait, ce qu'a vu SPT, c'est un point très brillant qui sortait un peu de l'ordinaire. Alors je me souviens plus du flux dans le millimétrique, mais ça sort de l'ordinaire. Et dans ces longueurs d'onde-là, vous n'avez pas beaucoup de points qui sont brillants. Donc tout de suite, ça attire l'attention. Alors ça peut être en fait soit un amas de galaxies qui est très excitant aussi pour la physique qu'il y a dedans, soit une galaxie lointaine. Et alors ce qui est rigolo avec ces données de SPT, voilà, ou Planck ou ailleurs, c'est qu'en fait quand on voit l'image avec le point brillant, on ne sait pas quelle est la distance. On sait qu'il y a un truc super excitant, super intéressant, mais on ne sait pas encore. Donc il faut aller faire de la spectroscopie et voir là le décalage vers le rouge et donc comprendre le redshift et puis ensuite faire de l'imagerie à haute résolution.
Alors rappelez-nous le redshift en quelques mots,
effectivement.
Ce que c'est, on en parle beaucoup, mais c'est toujours bien de se redire un peu à quoi ça correspond.
Alors le redshift, c'est le décalage cosmologique vers le rouge de la lumière, parce que de manière simple, comme l'univers est en expansion, si vous prenez une lumière proche de nous, elle émet normalement et on la reçoit normalement. Si par contre vous mettez par exemple un feu rouge, hein, vous le mettez très très loin dans l'univers de nous, à supposer que vous puissiez l'observer, comme il s'éloigne de nous vers le rouge, eh ben vous le verrez plus rouge, vous le verrez voilà, vous le verrez infrarouge.
Infrarouge, c'est l'effet Doppler. Hein.
C'est l'effet Doppler, voilà, ramené à la cosmologie.
C'est ça.
Mais alors comme l'univers, alors aussi souvent les gens se disent oui, mais est-ce que ça va plus vite que la lumière? Oui, ce qu'on observe peut aller beaucoup plus vite que la lumière ici 4,2 fois. Alors c'est l'expansion ne va pas plus vite, mais en tout cas ce qu'on observe peut aller de manière observationnelle beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Donc là 4 fois. Donc ça veut dire qu'elle est très très loin. On a une relation entre la distance et le redshift.
D'où le redshift 4,2.
Exactement.
Voilà. Et alors du coup, décrivez-nous un peu, parce que là, on a déjà mis l'image reconstruite de la galaxie en image sur notre fil Twitter, mais ce qu'on voit dans l'article qui a été signé par Rizzo et Halt. On voit
un anneau. Alors c'est vrai qu'il est extraordinaire,
comme une éclipse solaire presque.
Exactement. Ça ressemble à une couronne solaire. Sauf que là, c'est vraiment juste, il y a rien qui bouge devant. Enfin, c'est cela, comme le disait François, c'est la lumière qui a été détournée. Donc il n'y a pas un truc qui masque au centre. Il y a juste une masse qui a détourné la lumière, et comme l'alignement est parfait, on voit cet anneau. Et là, ce sont dans les ondes millimétriques aussi, donc c'est pas un truc qu'on peut voir avec des petits ou des grands télescopes, en tout cas pas de cette manière-là. On verra un anneau aussi, hein, avec les grands télescopes, notamment optiques. Et donc, ce qui est vraiment fascinant, c'est que non seulement ils ont obtenu une image donc à très très haute résolution angulaire, à la différence de SPT qui voyait qu'un gros point, on voyait un pâté, on savait pas ce qu'il y avait dedans. ALMA, avec ses centaines de mètres et ses kilomètres de largeur de télescope, hein, d'espacement de télescope, a pu vraiment voir de manière ultra fine ce qui se passait dans les émissions. Et en plus, ils peuvent faire des spectres. Et alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'on voit en fait la vitesse du gaz, en l'occurrence, la vitesse du gaz qui se balade dans cet anneau. Ensuite, comme le disait François il y a un instant, de cet anneau, on essaie de reconstruire comment était la galaxie avant qu'elle passe par la masse déviante qui produit l'anneau. Donc ils font un modèle de masse de la galaxie qui perturbe. Et puis grâce à ça, ils ont pu reconstruire cette image de la galaxie, avec notamment le champ de vitesse qui est juste extraordinaire. C'est vrai que c'est super beau. Donc en fait, c'est la puissance d'ALMA et de manière générale des instruments nouvelle génération qui allie très haute résolution, donc finesse de l'image, et puis de la spectroscopie. Alors là, c'est le luxe, moi qui fais de la cosmologie par ailleurs, avoir des specs comme ça, ça fait rêver. J'en ai pas autant, moi, des specs comme ça.
François Hammer, un mot peut-être, parce que donc on a publié l'image qui a été donc reconstruite, c'est-à-dire qu'en fait on infère ce à quoi ressemble cette galaxie à partir justement de cette masse qui va produire l'effet de l'antigravitationnel et qui est entre nous et cette galaxie, puisqu'elles sont parfaitement alignées. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de sœurs jumelles ou de cousines de la Voie lactée? Parce que quand on regarde cette image reconstruite, ça ressemble pas vraiment à l'image que l'on connaît de notre belle galaxie spirale barrée.
Allez, on va commencer par ce qui ressemble.
Allez.
Donc, ce qui ressemble, c'est effectivement, on a un disque qui est en rotation. Alors, je ne sais pas si vous avez pu mettre l'image où on voit le champ de vitesse dont parlait Hervé tout à l'heure, parce que c'est absolument magnifique. On voit en fait qu'il est inversé entre la partie haute de l'image et la partie basse de l'image, qui est exactement ce qu'on s'attend par effet de l'antigravitationnel.
On va mettre l'image avec le champ de vitesse là. On a mis juste la reconstitution, mais on va chercher cette vitesse, cette image qu'on puisse poser sur le fil Twitter également.
C'est vraiment magnifique. Alors de ce côté-là, on a un disque qui est relativement assez grand, moins grand que le disque de la Voie lactée, mais qui est un disque, donc en rotation, les étoiles sont bien en rotation. Donc pour l'instant, c'est bon. Il y a une ressemblance. Mais alors pour le reste, il n'y a vraiment aucun rapport. Alors je m'explique en quelques mots. C'est un objet qui forme des étoiles, Hervé l'a mentionné, il forme 350 fois plus d'étoiles que notre Voie lactée dans un volume qui est 100 fois plus petit que celui de notre Voie lactée. Donc vous avez en fait, c'est un objet qui est dominé par ce qu'on appelle un starburst, c'est-à-dire une extrêmement violente poussée de formation d'étoiles extrêmement compacte dans le cœur de l'objet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un objet aussi qui est bourré de gaz. Au moins la moitié de l'objet est fait de gaz. C'est pas complètement certain quelle fraction il y a de gaz et quelle fraction il y a d'étoiles, parce que c'est déduit de modèle, donc c'est un peu complexe. Mais notre Voie lactée a beaucoup moins de gaz. Donc il y a quand même il y a peu de ressemblance, faut quand même admettre.
C'est encore une belle réussite de la communication scientifique. Un mot, Hervé Dole, justement pour justement sur cette comparaison et cette différence. Pourquoi est-ce qu'on a voulu à tout prix, à part pour le storytelling, trouver une sœur jumelle de notre Voie lactée à 1,4 milliard d'années après
le Big Bang? C'est leur service de presse, parce que quand ils articulent, ils sont très prudents, ils sont très clean. C'est un peu comme Vénus, hein, ils sont très très clean dans leur article. Après, effectivement, on va en parler une caractéristique exceptionnelle qui est son champ de vitesse et son disque en rotation. nom auquel on ne s'attend pas à ces redshifts-là. Et surtout, comme disait François, vraiment, c'est une galaxie Starburst, donc qui crache de la lumière et des étoiles, qui forment des étoiles à très haut rythme. Donc on s'attend, puisque jusqu'à maintenant, ce qu'on observe en général, c'est effectivement des dynamiques très perturbées, du gaz dans tous les sens, très obscurci, donc effectivement là rien à voir avec notre Voie lactée, mais le côté disque qui tourne, ils ont fait une bonne trouvaille pour qu'on en parle aujourd'hui.
Et oui, puis par ailleurs, il y a plein de choses intéressantes, pas uniquement le disque qui tourne, on va y venir d'ailleurs dans quelques instants. Vous disiez Hervé Dole que ce qui est intéressant dans cette galaxie SPT 04-1847, c'est qu'elle fait partie des angles morts des simulations et des théories. Pourquoi ?
C'est vrai que comme l'évoquait François un instant, moi je vois ça un peu, vous savez, quand vous avez un calendrier de l'Avent et puis que vous avez une case et puis vous avez une surprise, ça, c'est un peu le cas, c'est-à-dire qu'ils avaient des milliers de galaxies dans SPT et puis je sais plus ce qui a amené au fait qu'ils observent celle-là avec ALMA pour la caractériser, enfin bref, c'est bingo, donc voilà, donc on en a une comme ça qui est exceptionnelle. La difficulté, c'est est-ce qu'elle est seule, enfin seule entre guillemets, est-ce qu'elle est très rare, hein, ou est-ce qu'elle est relativement commune, mais à cause de vous voyez, il a fallu 10 ans pour un peu la voir. Est-ce qu'à cause de la difficulté des observations, c'est juste qu'on les a ratées. Donc c'est peut-être un angle mort parce que alors en fait je révise un peu mon jugement parce qu'en fait elle est dans un halo qui est assez massif. Les galaxies ne sont pas toutes seules dans leur coin. Voilà, elles sont entourées de matière noire. Et puis la cosmologie prédit assez bien ce qui va se passer dans les galaxies en fonction du halo de matière noire, c'est-à-dire de la masse qu'il y a autour. Sauf que là, effectivement, vu la masse du halo, on se serait éventuellement attendu à ce que il y ait plus de perturbations. En revanche, dans les halos de petite masse, donc je ne crois pas que ce soit le cas de cette galaxie. On s'attend, en fait, c'est pas qu'on s'en fiche, mais on s'intéresse à ce qui est aux phénomènes principaux, c'est-à-dire les galaxies massives, parce que c'est ça qui est le plus facile à voir, le plus facile à tracer. Et donc les tout petits halos qui sont mangés assez rapidement par leurs voisins, je pense qu'on s'en intéresse pas énormément. Donc si cette galaxie s'avérait dans un petit halo et puis qu'elle a une dynamique complètement un petit peu bizarre, moi ça me choque pas qu'on soit un petit peu passé à côté, parce que l'univers est grand, l'univers est complexe, donc on s'intéresse d'abord au halo mainstream qui donne ensuite les galaxies massives, les amas de galaxies, etc. Donc il est possible que finalement ça nous ouvre une fenêtre sur un type de galaxie, sur des types de halos auxquels on n'a peut-être pas forcément prêté attention. Et effectivement, les prédictions semblent absentes, enfin là c'est François qui connaît mieux que moi, qui sont absentes du paysage.
Alors justement, François Hammer, pourquoi, en fait peut-être qu'il faut revenir et redonner un peu des pistes sur ce que l'on imagine aujourd'hui, ce que les modèles nous disent de l'univers à cet âge-là. Qu'est-ce qu'on sait de l'univers à cet âge-là et pourquoi est-ce que l'observation de cette galaxie montre finalement un angle mort justement des modèles de cet univers jeune?
Oui, il faut effectivement parler un petit peu cette fois de modèle cosmologique, oui. Et en particulier des modèles de formation des galaxies, qui est le plus commun et le plus accepté en tout cas, qui est le modèle de formation hiérarchique. C'est-à-dire qui dit quelque chose d'extrêmement simple. Je crois qu'Hervé tout à l'heure a bien parlé d'expansion de l'univers pour expliquer le redshift. Si l'univers est en expansion aujourd'hui, on se doute que à z égale 4 à l'époque où cette galaxie a émis sa lumière, il était beaucoup plus petit. En fait, il était 125 fois plus petit. Alors non seulement il était 125 fois plus petit, mais en plus il y avait de 10 à 100 fois plus de galaxies. Donc voyez, en période de Covid, c'est une bonne idée. Voyez, vous rendez compte, imaginez une pièce dans laquelle vous réduisez la pièce d'un facteur 125 et vous multipliez le nombre de personnes d'un facteur 10 à 100. Vous voyez l'effet, hein. L'effet, il est simple, c'est que le modèle hiérarchique, effectivement, trouve ici sa justification, c'est-à-dire que les galaxies effectivement avaient beaucoup plus d'interactions dans le passé, cette interaction était beaucoup plus courte et les petites galaxies se sont souvent rassemblées pour en former des plus grosses. Alors c'est pour ça un peu que cet objet est un peu exceptionnel, parce que cet objet n'a pas l'air de montrer justement ça. On s'attend dans ces rencontres que l'objet soit perturbé, soit détruit, son gaz soit envoyé un peu dans tous les sens, mais alors c'est pas toujours vrai. Il y a des collisions pour lesquelles il y a un remarquable échange de moments angulaires, en particulier quand les galaxies sont riches en gaz, qui est le cas à ces époques-là, et où vous pouvez, en fait, le disque qu'on observe, en fait, représenterait très bien le moment orbital. Le moment angulaire orbital, c'est-à-dire, vous, quand vous tapez dans un objet, vous voyez, vous pouvez le faire tourner. C'est rien d'autre que ça.
Et oui, et du coup, alors peut-être Hervé Daul là-dessus aussi, sur justement ce que SPT 041847 vient contredire ou en tout cas vient bousculer dans le modèle que vient de décrire François Hammer.
Mais oui, parce que comme il l'a dit un instant, avec cette densité de galaxies et puis de halo autour de matière noire en fait qui domine toute la dynamique, puisque la matière noire est un peu plus nombreuse et au final plus lourde, celle qui conduit tout ça, tous ces phénomènes, les halos ont tendance, et donc les galaxies, à se fusionner très fréquemment. Et souvent, les petites disparaissent assez vite. Enfin, disparaissent, la matière est là, bien sûr. Hein, mais elles fusionnent avec soit des voisines, soit des plus grosses. Et puis, donc on arrive dans les simulations à suivre ces arbres de fusion. Ça ressemble vraiment à un arbre. Hein, donc, les tout petits au début sont mangés par les plus gros, puis à la fin, les plus gros gagnent. Et puis, dans les observations aussi, hein, quand vous prenez des belles images du télescope spatial Hubble, notamment, ou du VLT ou d'autres, vous voyez ces galaxies avec des clumps, c'est des petits morceaux brillants, puis du gaz autour, enfin donc c'est des galaxies qui ressemblent en rien à la nôtre, c'est pas des belles spirales, elles sont toutes perturbées, parce que voilà, il y a des ondes de choc, il y a des fusions, il y a des zones de formation d'étoiles, François l'a dit, très localisées dans la galaxie, parfois ça déstabilise, parfois il y a la moitié de la matière qui s'en va, enfin c'est violent d'un point de vue dynamique, et donc avoir des relativement petites galaxies, premièrement, deuxièmement, qui forment beaucoup d'étoiles, et troisièmement, qui ont l'air froides dynamiquement, c'est vrai que ça pose des questions, parce qu'on n'aurait pas eu cette image de la dynamique là du disque, enfin tout le monde aurait pu parier, en tout cas moi, qu'elle serait complètement perturbée, cette galaxie, à cause des phénomènes violents qui interviennent.
Or là, elle est relativement stable.
Ah ben là, elle est super stable. Enfin, donc l'image, c'est l'image que vous mettrez peut-être tout à l'heure en ligne, c'est un cas d'école, enfin, c'est vraiment la rotation qu'on pourrait voir effectivement dans l'univers local qu'on fait avec les galaxies proches, et là c'est remarquable.
Et du coup, les autres galaxies que l'on avait pu observer, alors peut-être évidemment pas avec le même moment angulaire, mais les galaxies qu'on trouve comme IOKA 1 à 750 millions d'années après le Big Bang, ou GNZ 11 à 400 millions d'années, c'est-à-dire qui sont encore plus loin et encore plus jeunes, elles présentaient pas du tout le même schéma, elle présentait pas du tout les mêmes caractéristiques.
Alors déjà, avoir cette qualité de données, c'est pas donné à tout le monde. Donc là, moi, j'ai pas suivi la littérature de la dynamique de ces galaxies à très grand redshift, mais ce que j'en connais, effectivement, pas du tout. À chaque fois, on a des masses de gaz monstrueuses, donc qui forment des étoiles, et puis on a des dynamiques, c'est-à-dire comment ça tourne ou pas, extrêmement perturbées. Donc en fait, ça tourne pas du tout comme un disque tout tranquille, tout peinard. En fait, c'est extrêmement perturbé, et ça coïncidait un petit peu avec l'idée qu'on se faisait. Voilà, je fusionne. Ça met le bazar, c'est dynamiquement chaud, il y en a partout. Et puis, il faut attendre un temps relativement long, c'est-à-dire l'univers local, enfin voilà, les derniers 5 milliards d'années, pour avoir des disques qui se forment et qui se stabilisent.
François Hammer, à ce sujet ?
Ben en fait, vous pouvez, on commence effectivement, les modèles commencent à devenir de plus en plus prédictifs, bien qu'il y a encore beaucoup de travail, bien entendu. Ce qu'on peut montrer effectivement, c'est que les temps caractéristiques en fait sont plus petits dans l'univers lointain. Donc ce qu'on peut penser, c'est que ce genre d'objet pourrait exister. Mais alors la question maintenant, qu'est-ce que ce type d'objet représente ? C'est-à-dire quelle est la fraction ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Ou est-ce que c'est vraiment un seul, quasiment un cas d'école ? Il y a une possibilité que ça puisse être un cas d'école. Alors pour une raison qui est très très simple, c'est qu'on sait que ces objets-là très...
Ah, il y a un téléphone qui sonne.
C'est un téléphone. Oui, voilà. À très grand Z, on sait que ces objets...
Alors, on est en direct depuis le bureau de François Hammer.
Oui, je m'excuse.
Non, il n'y a pas de problème.
On sait que ces objets, en fait, sont très grands, effectivement, sont très spéciaux. Sont très particuliers, et l'effet de l'antigravitationnel est d'autant plus important que l'objet est grand. Il se trouve que les objets à très grand décalage spectraux sont très petits en général. Cet objet est exceptionnel par sa taille, la taille de son disque, et du coup, en fait, l'effet de l'antigravitationnel est beaucoup plus efficace sur ce type d'objet. Donc, il y a un biais en faveur d'observer ce type d'objet par des lentilles gravitationnelles. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire que cet objet est peut-être assez exceptionnel. Donc, c'est une très belle découverte.
Et on va voir justement comment l'exceptionnalité de cet objet peut nous conduire à repenser les débuts de l'univers, à repenser ces âges jeunes qui sont aussi normalement des âges, comme on l'a entendu, non seulement assez sombres, mais assez bouleversés. Et puis, on va voir comment on va pouvoir, dans les années qui viennent, peut-être avec d'autres instruments, remonter plus loin et peut-être découvrir d'autres objets de ce même type.
more than it seems in the stars and galaxies and people in between.
Stars and Galaxies de Carver Commodore à 16h35 sur France Culture. Nous parlons de galaxies et de galaxies très anciennes dans l'univers très jeune. Nous en parlons avec Hervé Doll qui est professeur à l'université de Paris-Saclay, astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, et avec François Hammer qui est astronome à l'Observatoire de Paris, également responsable de l'instrument multi-objet sur le futur Extremely Large Télescope dont nous allons parler dans quelques instants, puisque bien sûr on l'a entendu que nous sommes à l'heure actuelle avec cette image de cette galaxie SPT-04-1847 à la limite de ce que les instruments actuels nous permettent de voir, mais viennent dans les prochaines années de nouveaux télescopes, de nouveaux instruments qui devraient précisément nous permettre d'avoir la vue plus longue, et notamment le fameux James Webb Space Telescope auquel nous consacrions une émission entière il y a peu de temps. On va vous mettre bien sûr le lien sur notre fil Twitter, et dont la mission est précisément d'aller regarder dans l'univers jeune les toutes premières galaxies dans l'infrarouge, et c'est pour cela que vous êtes allé fureté à l'Institut d'astrophysique de Paris. Antoine Beauchamp, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et le James Webb Space Telescope, qui sera lancé fin octobre 2021, est en effet le grand attendu de l'observation spatiale à venir. Pierre Guillard est professeur à Sorbonne Université et chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Quels sont les équipements qui feront du JWST un télescope particulièrement précieux pour détecter les galaxies très lointaines? Et quelles régions seront scrutées de manière privilégiée? Pierre Guillard nous dit tout sur le cahier des charges attendu du JWST concernant ces galaxies très lointaines.
Le James Webb Space Telescope est en fait équipé d'une caméra proche infrarouge qui va être l'instrument de choix en fait pour observer les galaxies, ces galaxies très lointaines. En fait, avec cette caméra qu'on appelle NIRCam et avec la caméra MIRI, on s'attend à peu près à détecter une galaxie très lointaine. Alors par très lointaine, j'entends des galaxies qui ont moins de 500-600 millions d'années. Donc extrêmement jeune dans l'histoire de l'univers, hein, quelques pourcents de l'âge de l'univers actuel. Donc des bébés galaxies, en fait des galaxies qui sont en formation. Donc c'est surtout cet équipement infrarouge. Pourquoi ? Parce que la lumière émise par les étoiles, la lumière ultraviolette et optique visible par notre œil, est en fait décalée vers le rouge. Et donc on ne peut accéder à ces galaxies très lointaines qu'en observant leur lumière infrarouge. C'est un des intérêts de James Webb. Donc en fait, avec James Webb, on va pouvoir voir ces galaxies très lointaines, mais on va pouvoir voir leur lumière infrarouge directement. Et on va tester deux choses, deux grandes questions scientifiques. C'est cet assemblage. Est-ce que les premières structures qui se sont formées, ce sont des grandes structures, ou est-ce que ce sont des étoiles extrêmement jeunes, ce qu'on appelle les étoiles de population 3, qui pourraient être une source de rayonisation, de la phase de rayonisation de l'univers. Donc en fait, il y a une question ouverte aujourd'hui, c'est celle de l'impact du trou noir supermassif central sur ces galaxies. On pense en fait que ces galaxies forment beaucoup d'étoiles, et puis ensuite que le trou noir central va expulser le gaz ou limiter la formation d'étoiles. C'est ce qu'on appelle une phase de suppression de formation stellaire. Et on va tester avec James Webb l'impact du trou noir supermassif, plus directement que ce qu'on fait avec ALMA. On va tester l'impact de ce trou noir sur la suppression de cette formation stellaire. Et puis ensuite, en fait, il y a une phase suivante de croissance de ces galaxies qui sont faites par fusion de galaxies. Donc on va aussi voir ça avec James Webb, parce qu'on va avoir la résolution spatiale pour voir ces fusions de galaxies à très très haut redshift.
L'un des grands avantages du James Webb Space Telescope sur ALMA, c'est que c'est un télescope qui sera directement dans l'espace. Alors, est-ce qu'il y a des zones qui vont être observées en priorité sur ces questions de formation des galaxies par le JWST? Et si oui, pour quelles raisons on va observer ces zones en priorité?
Alors oui, il y a des zones très particulières, des zones qu'on connaît très bien parce qu'elles ont déjà été observées par notamment le télescope spatial Hubble. Donc ce sont, il y a différents, ce qu'on appelle champs profonds, hein, des toutes petites portions du ciel. Hein. Alors ça représente un dixième de la taille de la Lune sur le ciel, donc c'est extrêmement petit, mais ce sont des champs profonds que l'on connaît bien, qui sont observés avec divers instruments, notamment ALMA et le télescope spatial via le Hubble. Donc on va aussi les observer avec James Webb. C'est en faisant un temps de pause extrêmement long, de plusieurs centaines d'heures, que l'on pourra accéder à ces galaxies très lointaines. C'est ce qu'on appelle les deep fields, les champs profonds. Alors il y a d'autres galaxies qui vont être scrutées avec attention, ce sont les lentilles gravitationnelles, ce qu'on appelle ces mirages gravitationnels qui permettent d'accéder à des galaxies très lointaines, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même avec un télescope comme James Webb, qui va être 100 fois plus puissant qu'Hubble, eh bien on sera quand même limité pour voir les objets faibles et donc les objets les plus représentatifs de ce qu'on voit dans l'univers. Aujourd'hui, on voit que le haut de l'iceberg, les galaxies les plus brillantes. Et donc, en fait, ces mirages gravitationnels nous permettent d'avoir accès à des galaxies plus faibles, des galaxies standards, comme ce qui a été découvert avec ALMA sur cette galaxie particulière dont le nom est...
SPT-04-1847, je crois.
Exactement.
Et une toute dernière question, qui est une question à 1000 euros, à laquelle vous ne pourrez évidemment pas répondre, c'est est-ce qu'on peut s'attendre, grâce au JWST, à découvrir une plus grande quantité de ce type de galaxies telles que celles qui viennent d'être découvertes par ALMA?
Alors, je saurais pas répondre évidemment à cette question, mais ce que je peux dire, c'est que finalement, la surprise qui a été cette découverte avec ALMA, c'est surprenant parce que cette galaxie a une dynamique qui sort en fait de ce qu'on attend dans l'univers très très jeune. Hein. Mais je dirais qu'avec James Webb, vu qu'on va augmenter notre statistique d'objets, on va observer beaucoup plus d'objets comme ça. C'est pas étonnant que l'on trouve en fait une variété de propriétés, et peut-être que ça va remettre en cause un petit peu nos simulations numériques de formation de galaxies, puisqu'il va falloir rendre compte de cette diversité en fait.
Et peut-être, pourquoi pas, ouais, de nouvelles familles de galaxies, ça je ne sais pas si c'est envisageable ou pas du tout.
Alors, en fait, ces galaxies que l'on voit en ce moment, que l'on connaît en ce moment avec ALMA, dont cette fameuse galaxie, ce sont des galaxies qui sont des progéniteurs des galaxies massives elliptiques que l'on voit aujourd'hui, en fait. Et ce que va tester James Webb, c'est quel est le mécanisme qui fait transitionner ces galaxies d'une phase de formation d'étoiles intenses, hein. Cette fameuse galaxie, elle forme plus de 300 étoiles par an, à une phase où la galaxie ne forme quasiment plus d'étoiles. Et donc, elle a consommé son gaz de manière très intensive. Et est-ce que le trou noir central est le mécanisme qui va consommer ce gaz ou expulser ce gaz? Eh bien, c'est ça qu'on va tester avec James Webb. Donc, on va apprendre des choses. On va sûrement découvrir plein de galaxies à haut redshift très jeunes parce qu'on en attend beaucoup. Mais on va aussi élucider certains mécanismes de cette transition qui sont en fait des phases essentielles dans l'évolution des galaxies.
Voilà le reportage du jour et la voix de Pierre Guillard. Je veux simplement vous demander à l'un et à l'autre une réaction à ce reportage et à l'apport vraisemblable certain du James Webb Space Telescope lancé normalement en octobre 2021, peut-être un peu plus tard. C'est un peu l'arlésienne de l'exploration spatiale. Hervé Dolle.
Oui, on est content d'écouter Pierre qui est docteur de Paris-Saclay. Effectivement, JWST va vraiment nous aider. On travaille tous à essayer d'avoir des observations dessus et des programmes. James Webb va être vraiment extraordinaire. Le souci, c'est qu'il aura un tout petit champ de vue, donc il faudra partir un peu comme SPT et ALMA. ALMA peut pas couvrir tout le ciel, donc il faut avoir un a priori. Donc là, c'est ce que disait Pierre avec les champs Hubble, les champs profonds. Et en fait, le JWST va nous permettre de comprendre ce type de galaxie nouveau vers voilà quelques milliards d'années après le Big Bang, mais aussi de voir toute cette phase de transition, la réionisation. C'est-à-dire ce qui se passe juste après que l'univers est sombre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'étoiles, et le moment où il est complètement réionisé et où ces galaxies apparaissent. Cette période de réionisation mélange toute la physique rigolote et compliquée, et surtout compliquée, c'est rigolo, mais c'est surtout compliqué, c'est un peu notre malheur.
La physique rigolote.
Mais ça mélange absolument tout, les trous noirs, les premières étoiles qui sont finalement très mal connues, parce que voilà, il y a plein d'effets, les halos de différentes masses, on ne sait pas si c'est les premières étoiles, les premières galaxies qui vont réioniser tout ça. Et donc cette galaxie, la SPT 04 quelque chose, arrive finalement à la fin de ce qu'on pense être la période de réionisation. On pense que ça s'arrête vers un redshift de 5, et donc vers cette époque-là, c'est très excitant, puisque vous mélangez beaucoup de phases importantes de transition dans l'univers. Et le James Webb, normalement, devrait nous permettre de voir toute cette période de manière assez claire, que ce soit en imagerie avec NIRCam, MIRI, puis en spectroscopie, parce que il en a pas parlé, mais il y a une série de spectroscopes absolument hallucinants avec des micro-miroirs, etc.
Et on en a parlé dans l'émission.
Ben, j'imagine. Et puis, j'ai pas écouté celle-là malheureusement encore. Et puis, avec une observation dans l'infrarouge qui va vraiment nous permettre de d'élucider tout ça. Mmh. Le temps va être cher, la pression va être très, très compliquée pour y avoir accès, mais le JWST va vraiment nous dépanner sur ce sujet-là. Avec d'autres, on en parlera.
Il y a 450 heures pour pour la recherche européenne, qui sont les heures initiales.
Exactement.
Donc, il va y avoir un peu de temps, normalement.
Exactement. Il y a aussi les exoplanètes, il y a tout ça. C'est super, hein, mais voilà, faut se battre un peu.
François Hammer, à propos du James Webb Space Telescope et du reportage en particulier.
Oui, je pense qu'il faut peut-être expliquer un petit peu plus ce phénomène très important qu'est la rayonisation.
Bien sûr.
En fait, l'univers très lointain était en expansion, effectivement, s'est refroidi assez brutalement et est devenu en fait essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium neutre. Et en fait, l'hydrogène et l'hélium neutre ont une particularité, c'est que c'est totalement opaque au rayonnement optique, à part quelques longueurs d'onde rares, et ce qui fait que l'univers était vraiment totalement opaque, alors qu'aujourd'hui, l'univers nous observant, il suffit de regarder.
On est en train de vous perdre un peu, François Hammer. Je crois que la connexion est pas très très bonne. Est-ce qu'on vous entend un peu? François.
Là, toujours?
Ah, ça y est, on vous entend à nouveau. Allez-y.
Donc l'univers s'est transformé complètement. D'opaque, il est devenu transparent. On ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qui a fait ça. On ne connaît pas les objets qui ont fait ça. Effectivement, le James Webb va beaucoup aider, parce qu'il va permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, beaucoup plus profond.
La liaison avec François Hammer est un peu difficile. On va peut-être essayer de vous récupérer au téléphone, parce que là, apparemment, la liaison à Internet est en train de saturer. Peut-être un mot, Hervé Dole, est-ce qu'on pourrait revenir un peu là-dessus? Parce qu'effectivement, François Hammer a raison de revenir sur cette époque de la rayonisation. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Que nous disent les modèles de l'apparition des premières galaxies? Parce qu'on a un fond diffus cosmologique qui est homogène et isotrope. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on passe de ce fond homogène et isotrope à de la densité de matière et donc à l'allumage des premières étoiles et donc des premières galaxies?
Alors le fond cosmologique qui donne une photographie de l'univers à peu près 370, 380 000 ans après le Big Bang, effectivement est très homogène, très isotrope. Néanmoins, on voit quand même des tout petits grumeaux à une partie 1 sur 100 000, les petites fluctuations du fond cosmologique, qui nous disent qu'il y a quand même des petits grumeaux qui sont présents, et en fait qui sont un petit peu formés avant cette époque-là. Et donc il suffit de dérouler à la fois les modèles et les observations, on voit que ces petits grumeaux vont... Voilà, petit grumeau va devenir grand.
Ils vont se condenser.
Donc,
voilà,
donc vont se condenser et puis former des halos, c'est le terme, donc là où il y aura beaucoup de matière. La question effectivement, c'est comment on allume la matière ordinaire, parce qu'en gros il y a que de l'hydrogène et l'hélium, ce que disait François. Comment on allume ça? On a tous les ingrédients, on a de la masse, on a des concentrations et on a de l'hydrogène et de l'hélium. Et ben en fait c'est pas si facile, parce que avec juste de l'hydrogène et de l'hélium, allumer des étoiles c'est super compliqué. On va peut-être pas faire un cours de M2 ici, mais il faut plein de transitions pour refroidir d'abord et ensuite allumer l'étoile et ça se réchauffe, etc. Et donc les modèles disent que ce sont des étoiles vraiment géantes, vraiment une dizaine, centaine de masses solaires qui rayonneront énormément, notamment dans l'ultraviolet, et qui ont une durée de vie très courte. Il y en a d'autres qui disent, voilà, non, c'est pas nécessaire. Enfin, il y a tout un tas de modèles. Heureusement, les observations nous aident un petit peu, pas encore assez, mais ça va venir avec SKA, notamment des observations dans les ondes radio, parce que les ondes radio vont aussi nous sauver pour la rayonisation, avec le JWST aussi. Les observations nous aident, y compris les observations de Planck, parce qu'on a des contraintes. Il y a des galaxies qu'on voit très très loin dans l'univers, des quasars notamment, quand on fait le spectre. On arrive à voir que la lumière est rayonisée ou pas sur le trajet. Et on sait qu'au-delà donc du redshift 6 à peu près, l'univers était dans cette phase de transition, voilà, de rayonisation.
C'est redshift quoi, 6, c'est combien de temps après le Big Bang?
Je sais jamais. J'ai une table, j'ai une cheat sheet au labo, mais j'avoue, j'en parle jamais, nous.
4,2, c'est 1,4 milliard d'années, donc
c'est
6.
Ça, c'est de l'ordre de 1 milliard d'années, oui, c'est ça, on va dire, à la bouche. Okay. Voilà, ouais.
Oui, à peu près. Ça doit être à peu près ça.
J'aurais dû réviser avant.
Bon, c'est pas grave, vous en faites pas.
Et donc, avec des galaxies qu'on connaît aujourd'hui, jusqu'à un redshift de 10, 11, on arrive à voir que la rayonisation a eu lieu. Avec Planck, où on peut voir la densité d'électrons le long de la ligne de visée, on sait aussi que ça a eu lieu. Donc, en gros, on pense aujourd'hui, donc modèle et observation, c'est important, que cette rayonisation, c'est-à-dire les premières étoiles et ou les galaxies qui ont fait des bulles autour d'elles et qui ont ionisé l'hydrogène, en fait, hein, et puis tout ça s'est propagé, Ça a eu lieu entre 5 et 15 en termes de redshift, donc très très tôt dans l'univers. Mais effectivement, on ne sait pas si c'est des mini-quasars, c'est-à-dire en gros des mini-galaxies, mais beaucoup plus grosses que des étoiles, si c'est des étoiles. On ne sait pas aussi la quantité, parce qu'il faudrait beaucoup de petites étoiles, enfin petites étoiles, mais population 3, elles sont grosses, mais enfin bref, plein d'étoiles ou quelques quasars. Il y a aussi une notion de durée, c'est-à-dire que si vous mettez un moment plein d'étoiles et plein de quasars à un moment, bah, vous rayonisez votre environnement, mais est-ce que ça suffit pour rayoniser tout l'univers? On pense que non. Donc il y a vraiment, disons, trois problèmes, enfin deux problèmes. Quelles sont les sources qui émettent de la lumière ionisante? Et deuxièmement, combien de temps elle dure? C'est peut-être pas les mêmes au début et à la fin de cette période d'ionisation. Donc là, c'est vraiment de la physique très complexe, parce que ça fait appel à de la formation stellaire à très grand redshift. Faut pas oublier qu'à cette époque-là, l'univers est beaucoup plus chaud, hein. Redshift 10, il fait 30 degrés, enfin Kelvin. Hein.
Kelvin, oui, Celsius.
C'est ça. Mais, oui. Mais bon, c'est beaucoup pour refroidir des étoiles, etc. Quelle est la durée de ces quasars ou de ces étoiles de première génération? Et puis tout ça dans un contexte, donc à la fois d'univers qui s'étend, donc le fond, disons, se refroidit, et puis des halos qui, eux, se condensent. Donc vous avez tout un tas d'équilibres, enfin pas d'équilibre, mais parce que tout ça est bien calibré, mais la matière voilà, réagit différemment selon qu'elle est dans ces halos ou qu'elle est diffuse. Et vous mélangez tout ça et vous obtenez beaucoup d'incertitudes. On pense qu'on a les briques physiques qui nous permettront de comprendre ce qui va se passer, mais pour l'instant, on est un petit peu dans le flou. Et donc JWST, SKA et d'autres les observatoires au sol dont parlera, je pense, François, quand on le récupérera, vont nous permettre vraiment d'avoir un détail très très fin de plusieurs objets et enfin de remettre le puzzle en forme.
François Hammer, vous êtes avec nous à nouveau.
Oui, tout à fait.
Absolument.
Effectivement, il y a une coupure de liaison.
Ouais, c'est pas grave, ça fait partie des aléas du direct, comme on dit à la radio. Un mot justement peut-être là-dessus, notamment puisque vous travaillez, vous, justement sur l'un des instruments qui va équiper l'Extremely Large Telescope, le European Extremely Large Telescope, le EELT. Qu'est-ce que cet instrument devrait nous permettre, selon vous, de voir ou de quelle façon peut-il assister à recomposer ce puzzle que vient de décrire Hervé Dole sur les premiers moments de l'univers et sur la création de ces premières étoiles et de ces premières galaxies?
Effectivement, en fait, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que les objets les plus lointains sont non seulement extrêmement éloignés de nous et donc sont extrêmement peu brillants parce qu'ils sont très lointains d'une part, mais en plus ils sont plus petits. Donc ils ont tout contribué, disons, à ne pas voir grand-chose. Et Hervé a par exemple parlé d'objets jusqu'à Z égale 10 ou Z égale 11, mais pour l'instant, ce qu'on voit, en fait, c'est juste une petite tache sur un détecteur, et on peut absolument pas en étudier la moindre physique, on peut pas en avoir la moindre compréhension. Donc aujourd'hui, je dirais que l'univers, il y a moins de 500 millions d'années, lorsque l'univers avec 500 millions d'années, grosso modo, on peut dire qu'on ne connaît pratiquement rien observationnellement. Et là, le but de JWST, d'une part, va permettre d'aller investiguer, d'aller chercher ces objets, d'aller les attraper littéralement en étudiant leur distribution d'énergie, en étudiant leur forme, autant qu'il le pourra. Et derrière ça, effectivement, il va y avoir des observations qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin que ça et d'étudier la physique. Et ça, c'est le but de l'EELT. Alors l'EELT, il va faire plein de choses. Il va d'une part réussir à avoir des observations à très haute résolution spatiale, c'est-à-dire voir par exemple un petit peu comme dans cette galaxie-là le noyau et étudier le noyau. Et puis d'autre part, il va être aussi capable de faire ce qu'on appelle de la spectroscopie. Et de la spectroscopie, il va être capable d'étudier la physique. Qu'est-ce qui se passe dans ces objets et combien ces objets rayonnent de photons pour rayoniser l'univers. Et c'est avec, justement, à partir du moment où on aura cette compréhension, en fait, des galaxies, d'un grand nombre de galaxies très, très lointaines, grâce à ces instruments, on pourra dire qui a rayonisé l'univers.
Et puis il y a aussi une question et un mot qui n'a pas encore été prononcé pour le moment, mais qui est pourtant l'un des termes de l'équation de ces premiers âges de l'univers visible et donc de l'allumage de ces premiers soleils et de ces premières étoiles et de ces premières galaxies, c'est la répartition qu'il peut y avoir entre la matière baryonique et la matière noire de l'autre côté. Hervé Dole.
Là, c'est ce qui m'excite et qui me passionne. Effectivement, sur les modèles, on arrive à peu près à comprendre ce qui se passe. Et d'ailleurs, les modèles cosmologiques prédisent le chemin et le destin de la matière noire de manière très précise. Jusqu'à maintenant, ça marche À peu près. Alors effectivement, il y a toujours tout n'est pas parfait, hein, mais globalement, ça marche plutôt bien. Mais on sait juste toujours pas ce que c'est que la matière noire. On sait pas si elle existe. Alors on sait quand même des choses. Hein, voilà, la relativité générale marche bien. C'est prouvé tous les jours. On a des observations indirectes très nombreuses. Donc ça tient la route. Mais effectivement, on sait pas ce que c'est. Donc Euclide, qu'on va lancer en 2022, qui est une mission européenne, un peu la suite de Planck, mais dans d'autres longueurs d'onde, va nous permettre de cartographier très précisément la matière noire. Alors, pas au grand redshift dont on vient de parler. Hein. Mm-hmm. On s'arrêtera vers un redshift de 2 à peu près. Enfin, c'est quand même la dernière moitié de l'âge de l'univers. Hein. C'est même un peu plus, donc c'est pas mal. Et donc, là, on va pouvoir vraiment cartographier la présence indirect de la matière noire avec les techniques qu'on connaît. Et là, ça sera un peu l'heure de vérité. Alors, la mission va durer 5 ans et demi. Savoir si autour des galaxies et des amas de galaxies, ça se répartit bien comme on l'imaginait. Et tout ça cette connaissance va se propager jusqu'à très très grand redshift pour enfin, disons, pas clore un débat parce que Euclide ne verra pas la matière noire et ne détectera pas ce que c'est, mais par contre verra une répartition de manière ultra précise. On va enfin savoir où on en est avec cette matière noire. Mais effectivement, la matière noire, c'est un peu comme une baignoire dans laquelle, une baignoire que vous voyez pas, bien sûr, hein. Voilà, une baignoire transparente dans laquelle vous mettez de l'eau. Et puis selon qu'elle est profonde ou pas, votre eau, tombe très vite ou pas, ou ça se remplit vite ou pas. Et vous voyez que l'eau. Et donc, c'est un ingrédient mais essentiel à notre compréhension de l'univers. Cette relation entre matière baryonique, donc ordinaire, et cette matière noire est un peu la clé du problème.
Et ce sera le mot de la fin par ailleurs. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup François Hammer d'avoir été avec nous en ligne. Merci Hervé Dolle. On peut vous lire dans Le côté obscur de l'univers, c'est aux éditions Duno. Merci évidemment à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Natacha Trieu, Eve Etienne, Céline Lozen, Nomina Guide-Saint-Vulfranc, François Malordi, Olivier Bétard à la réalisation et Ludovic Auger à la technique. Demain, alors que le déploiement de la 5G crée des remous tant en termes écologiques qu'en termes économiques et politiques, nous nous intéresserons à un autre type d'ondes, les ondes terahertz, à mi-chemin entre les micro-ondes et le spectre visible. Elles sont présentées comme les ondes du futur. On vous explique pourquoi, tout, intégralement, demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.